Bonjour mes amis, je suis très heureux que vous vous soyez joints à moi. Si vous avez une Bible, prenez-la, asseyez-vous et ouvrez, si vous le voulez bien, 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons regarder le verset 13 dans une minute. Nous allons parler de l'épanouissement au milieu des épreuves. Nous avons tous des épreuves, nous avons tous des problèmes. Et Dieu a un chemin de victoire pour nous à travers ces épreuves et à travers ces problèmes. Nous allons examiner certaines choses qui seront très, très importantes pour vous. Bonjour, je suis Bill Esconley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Il y a un verset dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, qui a beaucoup compté pour moi au fil des ans et j'en ai parlé à beaucoup de gens parce qu'il y a là une vérité très libératrice qui nous oriente aussi. Il dit ceci, « Aucune tentation, d'autres traductions parlent d'ennui ou d'épreuve. » Le mot va dans tous ses sens. Tentation, test, trouble ou épreuve. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Il est bon de savoir que les choses que nous traversons sont aussi vécues par d'autres. Vous n'êtes pas seul à souffrir. Il a continué et il a dit « Dieu est fidèle ». C'est si bon de le savoir. Dans notre épreuve, dans nos problèmes, Dieu est fidèle. Fidèle à faire quoi? Voilà. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tenté, testé ou éprouvé au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Cela nous apprend des choses importantes. Nous aurons des problèmes, nous aurons des épreuves. Vous êtes peut-être en ce moment même au milieu d'une fournaise ardente en proie à un désastre financier. Peut-être que votre mariage semble détruit et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez que constater les dégâts. Vous êtes peut-être confronté à un problème de santé. Peut-être qu'il s'agit de vos enfants. Il peut s'agir de problèmes au travail ou de choses internes, des pensées effrayantes et des doutes avec lesquels vous vous débattez en permanence. Qu'il s'agisse d'une épreuve intérieure ou extérieure, voici la vérité, Dieu est fidèle. Il prépare toujours un moyen d'échapper afin que nous puissions supporter la tentation, l'épreuve. La Bible dit Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir. J'aime la version de la Bible, The Passion Translation. Elle présente une partie du verset en ces termes. Elle dit « Et chaque épreuve est une occasion de lui faire davantage confiance, car pour chaque épreuve, Dieu vous a ménagé une issue qui vous permettra d'en sortir victorieux. » Tel est le plan de Dieu pour nous. Il y a un moyen d'en sortir, et Dieu veut nous en faire sortir victorieux. La Bible dit, « Lui qui nous fait toujours triompher en Christ. » Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours. Je ne crains pas ce que l'homme peut faire contre moi. » Voici, dans nos problèmes, dans nos épreuves, nous devons chercher cette voie que Dieu a prévue. Nous devons chercher les dispositions qu'il a prévues pour nous à l'avance et qui sont présentes avec nous dans cette situation difficile. Il se peut que vous ne puissiez pas le voir en ce moment, que vous ne sachiez pas de quel côté vous tournez. Mais mon ami, Dieu a prévu quelque chose pour vous et il a un chemin sur lequel vous pouvez marcher. Il ne vous a pas abandonné au milieu de ces difficultés. J'aimerais maintenant que nous progressions sur cette question. Que faisons-nous? Comment gérer les moments difficiles auxquels nous sommes confrontés? Qu'il s'agisse de problèmes physiques, financiers, spirituels ou émotionnels, quelle que soit la nature des problèmes, comment pouvons-nous les surmonter? Quelles sont les pensées qui peuvent nous aider à surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés? En voici une pour vous. Lorsque vous êtes au milieu d'une épreuve, il est important de se rappeler que Dieu n'est pas votre ennemi. Certes, nous avons un adversaire, mais Dieu n'est pas l'adversaire. La Bible dit « Soyez sobre, restez vigilants. » Votre adversaire, le diable, Pas Dieu, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cela signifie qu'il ne peut pas dévorer n'importe qui à volonté. Il doit trouver quelqu'un qui a une faille dans son armure. Il doit trouver quelqu'un qui désobéit. Il cherche quelqu'un à dévorer. Vous pouvez tout aussi bien dire, « Écoute, diable, ce n'est pas moi, va chercher ailleurs. » Le diable est notre adversaire, pas Dieu. Je tiens à le dire aussi, ce ne sont pas les gens. Jésus l'a dit, et pour moi, c'est une grande ligne de démarcation. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » En revanche, Jésus a dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » La langue grecque dit « en surabondance ». Jésus est venu pour nous donner la vie, et cela en surabondance. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ce qui vole, égorge, détruit, n'est pas de Dieu. C'est l'œuvre de l'ennemi. Ce qui apporte la vie, mes amis, c'est l'œuvre de Jésus. Il est bon de s'en souvenir, je me souviens. Qu'en tant que jeune croyant, je venais juste d'être sauvé. Et il y avait une épicerie locale. Dans la partie arrière de l'épicerie, il y avait un petit café où l'on vendait des beignets. Et on pouvait y boire du café. Je suis assis à l'arrière, je lis ma Bible. Une femme entre et son mari la suit. Elle lui tient le bras. Le mari était émacié. Et pouvait à peine marcher. On aurait dit qu'il était prêt à s'écrouler. Ils se sont assis, et il y avait là-bas des bancs semblables à des bancs de pique-nique. Ils se sont assis sur le petit banc de pique-nique près de moi. J'ai entamé une conversation avec eux, dans le but de lui prêcher l'Évangile. J'ai simplement engagé la conversation avec lui en me disant que j'allais lui parler de Jésus. En fait, je parlais de Jésus à toute personne qui restait sur place assez longtemps. J'ai tout de suite compris qu'ils étaient tous les deux croyants. Puis, elle s'est lancée dans une longue histoire où elle racontait que son mari avait eu 7 crises cardiaques. Il avait l'air d'être sur le point de mourir, assis sur le banc. Dans mon innocence, j'ai dit, « Serait-il possible de prier pour votre mari ?» Et elle a été contrariée. Elle s'est lancée dans un langage quelque peu antagoniste à mon égard, en disant, « Que voulez-vous dire par prier pour lui ?»« Non, nous n'allons pas prier pour lui. C'est Dieu qui lui a fait ça. Comprenez-vous cela ? Dieu lui a donné ses 7 crises cardiaques. » Elle a continué en disant que c'était la main de Dieu qui lui avait fait ça. Je suis resté bouche bée. Puis, elle a saisi le bras de son mari et a fait de son mieux pour le presser de sortir. Il se déplaçait à pas lents pour s'éloigner de ce chrétien fou qui croyait que Dieu pouvait le guérir ou l'aider par la prière. C'est moi qui étais le chrétien dérangé. Ils sont sortis, ont pris leur café et sont partis. Je suis resté assis là, absolument abasourdi. Elle a littéralement eu une réaction violente lorsque j'ai suggéré de prier pour son mari, lorsque j'ai suggéré que Dieu pouvait l'aider par la prière, que Dieu pouvait améliorer les choses par la prière. Elle a dit « Non, 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 c'est ce que Dieu a fait ». Si nous blâmons Dieu pour nos problèmes, il n'y a aucune chance que nous nous tournions vers lui pour obtenir de l'aide. Je tiens à vous dire une chose. Dieu ne nous mettra jamais à l'épreuve avec quelque chose dont Jésus nous a racheté par sa mort. Je voudrais vous lire quelque chose. C'est tiré de Jacques, chapitre 1, verset 13. Il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne disent « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. D'autres traductions utilisent le mot « éprouver ». Or, les Écritures nous apprennent que Dieu met son peuple à l'épreuve. La Bible dit « Le Seigneur éprouve les cœurs ». Et Dieu nous met parfois à l'épreuve en nous demandant de faire quelque chose qui va exiger un sacrifice, peut-être même un grand sacrifice de notre part. Cela fait partie de la vie de tout chrétien. Nous prenons notre croix et nous le suivons dans l'obéissance. Il peut vous demander de vous rendre dans une certaine région du monde et de vous y investir comme missionnaire. Cela signifie que vous devez quitter votre famille et vos amis et peut-être vivre à un niveau bien inférieur à celui auquel vous êtes habitué. Mais mes amis, alléluia pour cela. Nous ne sommes là que pour peu de temps. Le ciel est trop réel, l'enfer est trop chaud, l'éternité est trop longue, le temps est trop court pour que nous désobéissions. Pourtant, Dieu mettra nos cœurs à l'épreuve. Dieu a mis mon cœur à l'épreuve. J'en ai des souvenirs, et il y a beaucoup d'exemples dont je peux faire mention, mais il y en a un en particulier. J'étais un jeune chrétien, et Dieu m'a demandé de donner quelque chose. En réalité, j'avais pratiquement donné tout ce que je possédais, jusqu'à mes vêtements. Je les avais donnés. Tout ce qui avait de la valeur pour moi, je l'avais donné. J'ai essayé de donner ma vieille camionnette Volkswagen, et je suis heureux que le gars ait refusé, parce que c'était mon logis à l'époque. Il y avait une chose. Je ne vous dirai pas ce que c'était. Elle n'avait pas beaucoup de valeur. Mais elle me tenait à cœur. C'était un objet que mon père m'avait donné quand j'étais tout petit. J'ai eu l'impression qu'un jour, alors que je priais, le Saint-Esprit a mis le doigt sur cette chose et m'a dit « Et ça, veux-tu me le céder ?» J'ai dû résister à cela. Cette résistance était en réalité une résistance contre sa seigneurie sur ma vie. À vrai dire, cela m'a pris quelques jours. Mais je suis arrivé à un point où j'étais prêt et j'étais heureux de l'être. Pas contre cœur, mais heureux de l'être. J'ai dit, « Seigneur, je vais le faire. À qui veux-tu que je le donne ?» Aussi clairement que possible, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et a dit, « Personne, tu peux le garder. Je voulais seulement que tu le veuilles. » Cette épreuve m'a permis de mûrir dans le Seigneur. Le Seigneur mettra nos cœurs à l'épreuve, mais il ne nous mettra pas à l'épreuve en nous imposant quelque chose dont Christ nous a rachetés par sa mort. Il est dit ici que Dieu ne tentera ni n'éprouvera personne par le mal. Il ne vous tentera pas de péché. Il ne vous tentera pas de vous enivrer. Il ne vous tentera pas avec une secrétaire au travail. Il ne va pas vous tenter d'être infidèle avec votre voisin. Il ne vous tentera pas de jurer. Il ne va pas vous tenter de mentir ou de voler. Non, Dieu ne tente personne par le mal. Il ne peut pas être tenté ou testé lui-même. Si cela entre dans la catégorie du mal, Dieu ne le fait pas. En fait, nous descendons de quelques versets. En fait, le verset 17, le verset 16, Jacques, chapitre 1, verset 16 à 17, dit « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Si ce n'est pas bon et si ce n'est pas parfait, cela ne vient pas de Dieu. Je suis heureux que les choses bonnes et parfaites viennent d'en haut, du Père des Lumières. Sur ce point, il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. » Dieu donne des dons bons et parfaits. Il ne donne pas de choses que la Bible qualifie de mauvaises. Savez-vous que l'Ancien Testament présente la maladie comme étant mauvaise et parle de mauvaise maladie? Dieu ne va pas vous infliger une maladie alors que Jésus a pris des coups sur son dos pour vous racheter de la maladie. La Bible dit, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53, il ne nous imposera pas la dépression. Mes amis, son front a porté la couronne d'épines. La Bible dit, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Encore une fois, Ésaïe 53, il est le prince de paix. Il ne va pas nous tenter par le péché. Il ne va pas nous imposer la maladie. Il ne nous imposera pas la dépression. Ce sont des choses dont Christ nous a rachetées par sa mort. Dieu ne nous tentera jamais avec quelque chose dont Jésus nous a rachetés par sa mort. Il ne le fera tout simplement pas. Il est important de se rappeler que Dieu n'est pas notre problème. Dieu est notre libérateur. Il n'est pas notre destructeur. Écoutez quelques autres versets si vous le voulez bien. Je les aime beaucoup. Il s'agit de Colossiens. Et nous allons dans Colossiens, chapitre 1, verset 15, qui parle de Jésus. Il est dit, « Or, le Fils est l'image du Dieu invisible, la représentation visible de l'invisible, le premier-né de toute la création. » Ceci est une traduction littérale de la Amplified Bible. « Le Fils est l'image du Dieu invisible. » Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus est la volonté de Dieu en action. Regarder Jésus, c'est regarder le Père. Dans Hébreux chapitre 1, verset 3, la Bible dit ceci à propos de Jésus. Il est l'expression unique de la gloire de Dieu, l'être de lumière, le rayonnement de la divinité. Et il est l'empreinte parfaite et l'image même de la nature de Dieu. Il s'agit une fois de plus de la Amplified Bible, mais Jésus est l'empreinte parfaite et l'image même de la nature de Dieu. Jésus n'a jamais rendu une seule personne malade pendant son ministère terrestre. Il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Voir Jésus, c'est voir le Père. Il est le libérateur, pas le destructeur. Je ne sais pas comment, mais les gens confondent cela. Même les chrétiens, je les écoute parler, on dirait qu'ils confondent Dieu et le diable. Ils ont un problème épouvantable et ils accusent Dieu. Ils luttent contre une maladie et ils disent que c'est Dieu qui la leur a donnée. D'accord, admettons un instant qu'il l'ait fait. Si vous dites que c'est Dieu qui vous a rendu malade, ce serait une rébellion totale d'aller voir un médecin et d'essayer de guérir. Ce serait une rébellion totale de prendre de l'aspirine pour essayer de se soustraire à la volonté de Dieu. Cela n'a aucun sens. Non, Dieu ne nous met pas à l'épreuve avec des choses dont le Christ nous a rachetées par sa mort. Je voudrais ajouter quelque chose. Il est important, lorsque vous êtes dans une épreuve, de savoir que Dieu n'est pas votre problème, mais aussi de réaliser que les gens ne sont pas votre problème non plus. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. » Écoutez, votre ennemi n'est pas votre patron. Votre ennemi n'est pas votre femme. Votre ennemi n'est pas votre voisin qui n'a pas ramené votre tondeuse à gazon. Votre ennemi n'est pas une personne. Il se peut qu'un mauvais esprit influence quelqu'un et qu'à travers cette personne, il crée des problèmes dans votre vie. Mais nous devons nous rendre compte que des forces spirituelles sont à l'œuvre dans l'ombre. Tant que nous rejetons la faute sur Dieu ou sur les gens, nous ne trouverons pas l'aide dont nous avons besoin. Je fais beaucoup de parties de pêche. J'en fais de toutes sortes. Je pêche à la mouche depuis que je suis tout petit. J'ai beaucoup pêché à la mouche. Je le fais encore à l'occasion. J'ai pêché beaucoup de barres. J'ai beaucoup pêché dans l'océan. En fait, je réfléchissais ce matin en savourant une tasse de thé assis à la table de ma cuisine. Je pensais à l'un des endroits où j'allais pêcher le bar avec un ami. Nous avions un leurre monté sur de petites cannes à pêche à l'appât. On lançait ce leurre dans une poche où l'on savait qu'il y avait du bar. On le faisait danser et vlan, le poisson l'atteignait. On s'amusait et on riait. On avait peut-être un bar de 2, 3 ou 4 livres que l'on remontait dans le bateau. Je me demande si ces bars savaient ce qui se trouvait au bout de la ligne qui faisait danser le leurre devant eux. Ils n'auraient jamais ferré ce leurre. Mes amis, vous devez vous rendre compte que votre ennemi n'est ni Dieu ni les gens. Nous avons un adversaire appelé le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est l'adversaire. Il est le trompeur. Il est l'ennemi. Vous savez, lorsqu'un matador est dans l'arène avec un taureau et ce taureau pense que la cape rouge est son ennemi, le taureau s'attaque à la cape et le matador plante une épée dans le dos du taureau. Puis, le taureau s'attaque à nouveau à la cape. Si le taureau réalisait un instant qui est son véritable ennemi, les choses changeraient radicalement. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit, « Écoutez, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire du mal. » Jésus a dit, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Posez les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Et il a dit, « Chassez les démons. » Le livre de Jacques dit, « Mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Alléluia. Il est tout d'abord dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Nous avons de l'autorité sur l'ennemi. Il est bon de se rappeler qu'au milieu d'une épreuve, nous pouvons nous tourner vers Dieu. Il est fidèle. C'est lui qui nous donne un moyen de nous échapper. Il veut nous aider et non nous faire du mal. Deuxièmement, c'est aussi important de se rappeler que Dieu dit toujours la vérité et que le diable est un menteur. Dieu dit toujours la vérité. Et le diable est un menteur. Permettez-moi de vous lire un autre verset. Il est tiré de Nombres, chapitre 23, verset 19. Il dit, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? » Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non, il accomplira sa parole. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Écoutez ces versets d'Hébreux, chapitre 6, versets 16 à 18. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Nous sommes puissamment encouragés, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Son conseil est immuable. Il est impossible à Dieu de mentir. Dieu ne peut pas mentir. En revanche, voici ce que Jésus a dit lorsqu'il s'adressait à certains chefs religieux de son époque. Jean chapitre 8, verset 44. Il a dit, « Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Satan n'est pas seulement un menteur, il est le père du mensonge. D'une part, nous avons Dieu qui ne peut pas mentir. Il lui est impossible de mentir. Son conseil est immuable. Ses promesses s'accompliront. D'autre part, nous avons le diable. Tout ce qu'il dit est un mensonge. Je me souviens qu'une fois, je parlais à un homme qui était complètement désemparé. Et il m'a dit, « Bélès, le diable n'arrête pas de me dire que je vais mourir. » Que je vais mourir tôt. Je suis tourmenté à ce sujet. Je n'arrête pas de penser, que va faire ma famille quand je ne serai plus là? Que vont faire mes enfants sans père? C'est une famille à revenus uniques, et c'est moi qui subviens aux besoins de la famille. Que va faire ma femme? Le diable n'arrête pas de me dire que je vais tomber malade, que je vais mourir, et j'en suis tourmenté. Il était sérieux. J'ai dit, et alors? Il m'a répondu, « Que veux-tu dire par là? Cela me tourmente. » J'ai dit, « D'accord, j'ai pris la Bible. » Nous avons examiné un certain nombre de versets où Dieu dit très clairement qu'il est notre guérisseur, que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus, que Dieu pardonne toutes nos iniquités, il guérit toutes nos maladies. Nous avons examiné un certain nombre de versets. J'ai dit, « Vois-tu ces promesses ?» J'ai rajouté, « Les connais-tu ?» Il m'a répondu, « Oui, je connais ces versets. » Puis je l'ai amené à Jean chapitre 8, verset 44. Et j'ai dit, « Écoute, le diable est un menteur. Tout ce qu'il dit est un mensonge. Tu reconnais que c'est le diable qui te parle, n'est-ce pas? Il te dit que tu vas mourir. » Dis, « Oui, je suppose. » J'ai dit, « Non, pas je suppose, absolument. C'est contraire à ce que Dieu dit de toi et à ce qu'il promet pour toi. » Il dit, « Je suppose que tu as raison. » Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Il a compris. À partir de ce jour, il a refusé ses pensées. Il a résisté parce qu'il savait d'où elles venaient. Aujourd'hui, c'est un vieil homme, toujours marié. Ses enfants sont tous adultes, mais il a refusé de croire aux mensonges du diable. Si vous êtes tourmenté en ce moment dans votre situation, écoutez, si le diable dit que vous allez couler, eh bien, Ne le croyez pas, c'est un menteur. Croyez en Jésus qui a dit « Passons à l'autre bord ». Tu vas arriver à l'autre bord. Tu ne vas pas couler à mi-chemin, même si une grande tempête survient sur ta petite mer. Dieu est fidèle et il prépare un moyen pour s'échapper. J'aurais aimé avoir plus de temps, mais ce n'est pas le cas. Mon temps est presque écoulé. Nous continuerons la prochaine fois. Et je vous recommande de ne pas manquer cela. Vous allez rater la moitié de votre vie si vous manquez mon prochain message. Je suis impatient de vous faire part de mes réflexions, mais cela devra attendre. Pour l'instant, écoutez, si vous me regardez, où que vous soyez, je voudrais simplement vous demander pourquoi. Quand vous écoutez ma voix, pourquoi? Vous pourriez être en train de faire autre chose. Vous pourriez être ailleurs en ce moment. Vous pourriez écouter de la musique. Vous pourriez faire du jogging. Vous pourriez être en train de dormir. Vous pourriez être avec des amis. Vous pourriez être ivre dans un pub. Pourquoi m'écoutez-vous? C'est parce que Dieu a attiré votre attention, mon ami. Il vous aime et il veut que vous le connaissiez. Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous amener dans une relation avec le Père. Invoquez le nom de Jésus aujourd'hui et soyez sauvés. Nous nous reverrons la prochaine fois.
Vous avez aimé l'émission ? Nous en avons d'autres. Consultez notre site web. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Vous serez aidé à saisir la force de Dieu et à vous laisser porter par lui. Téléchargez gratuitement le livret thématique de Bayless Conley, intitulé « Saisissez la force de Dieu ». Disponible gratuitement au format PDF. Maintenant sur bayless-conley.fr/force.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.